La joie du salut, c'est le thème de la conférence du père Nicolas Bernard Virlet, dominicain aumônier régional des équipes du Rosaire. Cette intervention a été enregistrée le 24 avril 2018 à la maison diocésaine de Bayonne, lors de la journée diocésaine des équipes du Rosaire. La joie du salut, le père Nicolas Bernard Virlet, dominicain.
La joie du salut. Alors, c'est la joie de la bonne nouvelle du salut. Est-ce que, pour entrer dans cette joie, il nous faut avoir conscience profonde, spirituelle, réelle, que nous avons besoin d'être sauvés? Si nous voulons rentrer dans la joie du salut, eh bien, il nous faut réaliser que nous avons nécessité vitale d'être sauvés. Est-ce que nous sommes ici et nous disons, mais oui, Seigneur, j'ai vraiment besoin d'être sauvé. Sans toi, ma vie tombe en lambeaux. Parce que pour entrer dans la joie du salut, la joie du salut, je prends les mots, hein, voilà, il faut avoir au cœur, eh bien, que si je veux rentrer dans cette joie, il faut que je sois sauvé. Et donc, que j'ai vraiment nécessité d'être sauvé. Sauvé de quoi, vous allez me dire? Ce soir, je rentre chez moi, ça va pas trop mal, j'ai la maison, j'ai mon entourage. Sauvé de quoi? La joie du salut. Eh bien, on est sauvé parce qu'on est dans une situation difficile et dans notre vie, on voit bien que quand on est malade, il y a des maladies graves, d'accord? Des maladies graves et les médecins vont nous soigner, vont pas toujours réussir d'ailleurs à nous sauver, à nous guérir. Donc le salut, c'est quelque chose de la guérison. Alors, quelle est cette maladie qui nous rejoint tous et dont nous avons besoin d'être guéris, d'être sauvés? Cette maladie, elle a un nom, c'est le péché, la maladie de l'âme, qui peut rejoindre aussi notre corps. Jésus sauve souvent, il guérit des malades, mais vous savez, il allie toujours cette guérison au pardon des péchés. Une maladie du corps, nous le savons combien. Et récemment, eh bien, Jean-Baptiste, le fils de Josiane, qui est décédé d'une maladie, brutalement, en quelques mois, eh bien, voilà, la maladie du corps, combien elle nous éprouve. Hein. Mais il y a une maladie encore plus éprouvante, c'est celle de l'âme. Et quand Jésus guérit les corps, il guérit aussi les âmes, il pardonne. Est-ce que nous avons vraiment conscience de cette nécessité d'être sauvés de cette maladie de l'âme qui est le péché? Ça me frappe beaucoup à l'hôpital, je suis aumônier de l'hôpital, alors de, maintenant pas aumônier de l'hôpital des enfants à Bordeaux, mais aumônier du centre Bergonier, le grand centre anticancéreux. Il y a des gens qui viennent de chez vous aussi, on vient de toute la région. Est-ce que, voilà, nous sommes malades du péché? Et ça me frappe beaucoup à l'hôpital quand les gens demandent le sacrement des malades, nous faisons la démarche aussi du sacrement du pardon, et bon, mon père, vous savez, non, tout va bien, non, j'ai pas de péché, non, j'ai rien fait. Alors je dis, mais pourquoi le pape François, il se confesse régulièrement, le frère Nicolas, il demande pardon, le père Hayet, je suis sûr, enfin voilà. Et pourquoi cette perte du sens du péché? Finalement, on est malade et on ne le sait pas, je vais pas vous démoraliser, hein. Voilà, au contraire, elle vous donne la joie, mais voilà. Mais pour être joyeux, il faut commencer par prendre conscience, eh bien que oui, nous sommes malades, malades du péché, cette maladie de l'âme. Et vous savez, il n'y a pas pire maladie que celle qu'on ne sent pas. D'ailleurs, dans les cancers, il y a quelquefois des cancers qui apparaissent parce qu'ils se développent dans une partie du corps qui touche pas de centre nerveux, donc on sent pas la tumeur, on sent pas le comme ça. Puis après, quand ça pop, quand ça explose, c'est trop tard parce qu'il y en a déjà partout. On n'a pas senti. Il y a des cancers qui démarrent, on les sent tout de suite. Hop là, ça, ou au bout de 15 jours ou un mois, on le sent et on peut le prendre plus tôt. Voilà. Ben, le péché, c'est ça, vous voyez. Et on est un peu anesthésié. Alors, il s'agit pas. C'est vrai qu'on a peut-être beaucoup culpabilisé les gens. Il y a eu peut-être un excès, mais alors, le balancier de l'horloge, il est passé de l'autre côté. Voilà. Pour rentrer dans la joie du salut, il faut avoir conscience qu'on a vraiment nécessité vitale d'être sauvé, d'être guéri de cette maladie de l'âme qui nous conduit à la mort. Et cette guérison, elle se fait par une grâce par un médicament, médicament de tous les médicaments, qui est le pardon, la miséricorde, la joie d'être sauvé. Le message de Jean le Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Portez la joie aux pauvres, la bonne nouvelle. Car ce n'est pas une bonne nouvelle, comme il y en a souvent. Voilà, j'ai gagné au loto, hein, c'est une bonne nouvelle. Bon, d'accord. Mon garagiste va me faire crédit. Ah ben, c'est une bonne nouvelle, mais pour quelques jours, voilà. C'est une bonne nouvelle. Bon, mais ce n'est pas la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, elle n'est pas pour quelques heures, elle n'est pas pour quelques jours, elle n'est pas pour un an ou plus quelques années, elle est pour l'éternité. C'est la seule. Celle de la vie éternelle, de la vie avec Dieu. La bonne nouvelle. La joie du salut. La joie de la bonne nouvelle. C'est celle qui habite le cœur des saints, c'est celle qui habite le cœur de la Vierge Marie. Alors nous allons entrer, si vous voulez, ensemble, si vous voulez bien, dans cette joie du salut. Vous savez, dans le temps de l'Avent, il y a le dimanche, le troisième dimanche, Gaudete, où on se réjouit par avance de la joie de Noël. Et dans le carême, c'est pareil, il y a le quatrième dimanche de carême, c'est le dimanche Laetare, on se réjouit par avance, voilà. Parce que la joie de Noël, le fait que Jésus, le Fils de Dieu, le Fils unique et bien-aimé du Père, l'innocent, comme l'appelle l'un de nos frères, Père Marie-Joseph Le Guillou, s'est fait l'un de nous, est descendu en notre humanité, il est près de nous, le Sauveur. La joie est immense. Le Sauveur est près de nous. Je vais être sauvé. Nous allons être sauvés. Cette joie, elle nous rejoint avant même d'être sauvés. Ça vous dit rien, ça ? L'Immaculée Conception. Cette grâce de la Vierge Marie, grâce particulière, qui vient de la rédemption, de la mort, de la passion, de la mort et la résurrection du Christ, et qui rejaillit déjà par avance sur la Vierge Marie, dès sa conception, dès sa naissance, qui la protège du péché originel, comme le fera la grâce de notre baptême, qui nous lave du péché originel. Donc, la grâce de cet événement, qui est le cœur de l'histoire, de la passion, d'amour, de notre Sauveur, sa mort et de sa résurrection par amour, d'un amour plus fort que la mort, rejaillit sur la Vierge Marie. Eh bien, la joie de Noël, ce mystère qui touche la Vierge Marie par excellence, rejaillit déjà sur nous aussi. La joie de Noël, nous l'avons avant Noël déjà. La joie de Pâques, nous l'avons. La joie d'un événement qui est là avant l'événement. On prépare un mariage, on est heureux. Cette joie, voilà, de cet amour entre le fiancé et deux fiancés, voilà, qui est au cœur de l'homme, qui est un don de Dieu magnifique, qui vont fonder une famille sous le regard de Dieu, ben cette joie, elle est déjà avant le mariage. Voilà, vous voyez, cette joie. Donc, ce n'est pas une petite joie. Hein. D'accord ? C'est la joie de la bonne nouvelle, la joie du salut. Alors, pour comprendre pourquoi on a besoin d'être sauvé, on va prendre des images. J'aime bien parler avec les images, les paraboles, comme faisait Jésus d'ailleurs. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est entre autres, parlez-vous les uns les autres comme je vous ai parlé. Écoutez-vous les uns les autres comme vous écoutez, regardez-vous les uns les autres comme je vous ai regardé. Alors les images, elles sont toujours limitées, mais il y a des images qui sont plus opérantes, au sens qui sont plus justes, ajustées. Et pour l'histoire, pour le salut, pour comprendre le mystère de notre salut, eh bien, je crois qu'il y a une image qui est assez forte. Alors, on n'est pas dans les Alpes, on est dans les Pyrénées, pas loin. Et c'est l'histoire, allez, il n'y a pas de Parisien ici. Si, bon, un bon Parisien, en général, les Parisiens, ils savent tout. Vous savez, quand ils arrivent quelque part, quelquefois, ils savent tout sur tout. Voilà. Et donc, ils vont faire du ski hors piste, voilà. Hein, alors, les guides de montagne qui sont du pays, ils leur disent non, n'y allez pas, parce que là, d'abord, c'est dangereux, et puis il y a des avalanches, et puis il y a aussi des crevasses sur les glaciers. Et comme je sais tout, je suis assez bien pour savoir ce qui est bien et mal, ce que je peux faire ou pas faire. Tiens, c'est l'histoire d'Adam et Ève, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, on part en hors-piste. Et puis, on se casse la gueule dans une crevasse. Voilà, voilà. Et on est au fond de la crevasse. Bon, on s'est cassé la jambe, on a mal. Et on commence à se dire que si personne n'arrive pour me sauver, il va faire froid. Et puis, bon, je vais peut-être éliminer. Enfin, voilà. Et je risque ma vie, je risque de mourir. Voilà, voilà. D'accord ? On est au fond de la crevasse. Ouais. C'est un peu notre histoire à chacun. Hein. On a besoin d'être sauvé, sinon, voilà, au fond de la crevasse de notre péché. Alors, c'est des images un peu fortes, mais c'est ça. Hein, là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà, on nous recherche. Voilà. Les sauveteurs vont nous rechercher. Voilà. Ils vont scruter partout, ils vont chercher les traces. Voilà. Et puis, aïe, il y a un sauveteur, ils ont trouvé. Alors, prendre l'hélicoptère, il va pas pouvoir se poser, il va descendre, voilà, tout son équipage, et puis au bord de la crevasse, qu'est-ce qu'il va faire, le sauveteur? Eh bien, il va déployer une échelle pour descendre au fond, pour nous remonter sur le dos, avec délicatesse, voilà, avec savoir-faire, pour nous ramener. C'est l'histoire du Christ Jésus, le Fils unique et bien-aimé du Père, notre Sauveur, le Sauveteur. Il va descendre jusqu'au fin fond de notre humanité, jusqu'au fin fond de la crevasse de notre péché, rechercher la brebis perdue qui s'est cassée la jambe. Il va se faire semblable à nous en toutes choses. Il va en baver, le Sauveteur. Hein. Sauf de se casser la jambe. Semblable à nous en toutes choses, excepté le péché. On ne demande pas de se casser la jambe, le Sauveteur, sinon on serait mal. Hein. D'accord ? Voilà. Pour nous remonter. Voilà. Semblable à nous en toutes choses, excepté le péché, nous dit l'apôtre dans l'Épître aux Hébreux. Il a eu faim, il a eu soif, il a sué, il a été angoissé, il a souffert pour nous, et même il est mort pour nous. Il a partagé toutes nos joies à Cana. Alors est-ce que nous avons, pour entrer dans la joie du salut, la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment conscience de cette nécessité d'être sauvé ? D'être guéri, d'être pardonné. Tous les saints ont fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. Prenez l'histoire de saint Pierre, celui qui est le plus présent dans l'Évangile, après Jésus et la Vierge Marie. Il a fait l'expérience de la miséricorde, du pardon de Dieu. D'ailleurs, c'est la seule différence avec Judas. Parce que vendre Jésus pour 30 pièces d'argent ou le renier trois fois, comme dit l'autre, c'est kiff-kiff bourricot. Et la différence, c'est que Judas n'a pas cru au pardon possible. Il a désespéré. Alors que Pierre a croisé, s'est mis en situation de croiser le regard de toute miséricorde après son reniement. C'est dans l'évangile de Luc, au verset 22, au chapitre 22, verset 61-62, face à face admirable dans la nuit de la Passion. Il a fait l'expérience au fin fond de la crevasse de son péché, du reniement, de la trahison, pour être sauvé de la miséricorde de Dieu. La joie du salut, elle va avec la joie du pardon. Elles ne font qu'un, car notre salut, c'est la miséricorde de Dieu. Oui, le dessein que Dieu porte sur l'humanité, sur chacun d'entre nous, c'est un dessein de joie éternelle. Pas une petite joie, une joie éternelle, la joie du salut. Mais nous avons pris un chemin de traverse et nous nous sommes cassés la figure au fond de notre crevasse. Et il nous faut être pardonnés, il nous faut être sauvés. Mais sauvés pourquoi ? Sauvés pour cette joie éternelle. C'est pas sauvés pour repartir dans les galères. C'est sauvés pour cette communion retrouvée avec Dieu pour l'éternité. Alors, il est grand le mystère de la foi. Nous le proclamons en chaque Eucharistie, après la consécration. Le mystère, vous savez, chrétien, ce n'est pas ce qui est ténébreux au sens habituel du terme. Vous savez, Il y a même une émission, je crois, à la télévision, à un moment, c'était le mystère. Vous savez, c'était un peu des trucs un peu gâchés, un peu compliqués, un peu ténébreux. Non, le mystère chrétien, c'est pas ça. C'est pas ce qui est incompréhensible, le mystère chrétien. C'est ce qui est inépuisable, car c'est le mystère d'un amour infini. Alors, dans l'inépuisable, il y a de l'incompréhensible, mais c'est pas d'abord ce qui est incompréhensible. C'est inépuisable. Et cette joie que Dieu veut pour nous, elle est immense, éternelle, en plénitude. Parce que Dieu fait jamais les choses à moitié avec nous. Lorsqu'il multiplie les pains, il le fait en abondance. Une fois, il reste 12 corbeilles, signe qu'il multiplie ses merveilles pour les 12 tribus d'Israël. Et puis une autre fois, il reste 7 corbeilles. C'est parce que c'est pour toute la création, toute l'humanité, tout entière. Lorsqu'il fait du bon vin à Cana, ça déborde. Et de son côté ouvert sur la croix, déborde son amour infini, les sacrements de l'Église, cet amour plus grand que l'amour. La joie d'être sauvé, ce dessein d'amour éternel. Eh bien, nous allons, si vous voulez, faire un petit parcours biblique. Ça va ? Oui, vous posez des questions, si vous voulez, hein. N'hésitez pas. Chaque jour de la création est marqué par ce regard de Dieu qui nous enchasse. Et Dieu vit que cela était bon. Ce que Dieu fait, a créé, est bon. Nous sommes créés à son image et ressemblance. Et Dieu vit que cela était très bon. Et au matin de la résurrection, je suis sûr que Dieu a vu que cela a été très, très bon. Le dessein d'amour de Dieu, c'est de son amour gratuit sur abondance et de faire entrer ces créatures que nous sommes, de nous partager sa joie. Vous savez, on reproche à Dieu que le monde est mal fait. C'est vrai, on lui reproche beaucoup de choses à Dieu, hein, voilà. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. On peut poser des questions à Dieu. On peut poser des questions à Dieu. C'est normal. Marie pose une question à l'ange. Comment cela va-t-il se faire ? Ce n'est pas parce qu'elle manque de confiance. Mais dans la foi, elle veut comprendre. Et c'est beau. Même Jésus, dans l'épreuve, la dérédiction sur la croix, dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas un manque de foi. C'est dans ce cœur à cœur, au fin fond de l'épreuve, en son humanité, il porte notre prière. Là même, nous ne sommes pas seuls. Il a partagé toutes nos joies, toutes nos peines. Il n'y a pas de lieu dans notre humanité excepté le péché où Dieu, en son Fils, nous tienne la main dans nos joies et dans nos peines. Alors, cette joie que Dieu veut pour nous, elle est immense. Elle est donnée dans le Christ, qui donne sa vie, qui vient nous sauver, notre Sauveur, mais elle rejaillit déjà. On a vu cette joie qui est tellement grande. Si je prends dans... C'est le Jean qui nous dit cette parole de Jésus. Abraham exulta à la pensée de voir le jour du Christ. Donc 2000 ans avant, Abraham a exulté dans la foi. Cette joie déjà a été semée dans son cœur. Et ce mystère de joie, il est ce dessein d'amour à travers toute la Bible, dans les psaumes. Prenez tous ces chants de joie, les psaumes de louange. Reprenez le psaume 50. Nous n'aurons pas le temps, il faudrait prendre un peu plus de jours, mais rends-moi la joie de ton salut. C'est toute l'histoire de David. Vous savez, David, c'est le saint roi David, et les saints, c'est pas des... Comment dire? Les saints, c'est pas ceux qui sont parfaits sur un petit piédestal, voilà, héroïque, stoïque, par la force du poignet. D'ailleurs, dans l'encyclique, le pape dit qu'il y a deux dangers contre la sainteté aujourd'hui. Il y a l'intellectualisme, de faire croire que les saints, c'est pour quelques élites sur un piédestal, ou le volontarisme, ou la sainteté, c'est le pélagianisme, que j'ai pas besoin de la grâce de Dieu pour me sauver, c'est la force du poignet, voilà. Non, la sainteté, elle est pour tout le monde. Et David, et l'histoire de David, c'est quoi? David, vous savez, le roi David, aujourd'hui, il passerait aux assises, hein. Il a passé 10 ans à être aumônier de prison, donc je connais un peu ce milieu-là. Voilà. Pourquoi ? Parce que Bethsabée, la femme de Ouri, son général, lui a tapé dans l'œil et il a voulu lui prendre. Voilà. Alors quand Ouri revient, il fait quelque chose qui n'est pas bien, il le saoule, parce qu'il avait donc David, il a passé la nuit avec Bethsabée, qui attend un enfant de lui. Comme ça, il dit, mais comme ça, il va être saoul, il va dormir avec elle, puis comme ça, l'enfant ne sera pas de qui il sera. Voilà. Et puis, manque de peau, Bethsabée, Ouri, le général, il est très respectueux, il est un peu saoul, et donc il va pas voir sa femme, il a un grand respect, c'est un homme juste. Et donc, David est embêté, donc finalement, il l'envoie au front pour qu'il soit tué. Donc ce n'est pas un meurtre, c'est un assassinat. C'est-à-dire que c'est un meurtre avec préméditation, c'est un piège. Voilà. C'est passible de perpétuité ou de 30 ans de prison, voilà, aujourd'hui. Et David, donc il y a un prophète qui va le voir, Nathan, et puis qui lui raconte l'histoire de quelqu'un qui est un petit propriétaire, puis il y a un grand propriétaire qui lui prend son petit bout de champ. Il est pauvre, ce petit paysan, puis le grand propriétaire qui a déjà des milliers d'hectares lui prend le petit champ. Et alors Nathan lui dit, qu'est-ce que t'en penses, David ? Ah ben, il dit, le grand propriétaire, c'est un salaud, ben, c'est toi. T'as pris la femme, toi qui es un roi, qui a tout ton royaume, t'as été prendre la femme de ton général qui a comme joie que eh bien, son épouse et puis sa petite famille. Voilà, cette histoire, c'est toi. Alors David, il se met à pleurer sur son péché et il va composer ce psaume admirable, le psaume 50, que l'Église redit tous les matins de vendredi. Tous les moines, tous les religieux, tous les prêtres disent ce psaume 50 au moins une fois par semaine et plus souvent, mais voilà. Prends et pitié de moi, pauvre pécheur, rends-moi la joie de ton salut. Et Dieu est capable eh bien, de relever le pécheur. Voilà, nous le voyons bien à travers tous les évangiles. Marie-Madeleine, l'ancienne prostituée. Pierre qui l'a renié par trois fois. 9 apôtres qui l'ont laissé tomber au pied de la croix. Qui l'ont trahi, qui l'ont laissé abandonner lâchement. Pierre qui l'a renié trois fois. Le bon larron, un brigand, un ancien brigand. Le premier saint canonisé de l'histoire, c'est un ancien prisonnier. Voilà. La puissance du pardon. La joie du salut. Parce que nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Ça, dans le cœur de Dieu, rien ne peut l'enlever. Mais c'est nous qui coupons la relation. C'est pas le Père, c'est pas Dieu qui nous rejette, c'est nous qui nous, comme l'enfant prodigue qui s'en va loin de son Père, qui coupe la relation avec son Père. On pourra revenir une fois là-dessus. Mais quand dans le cœur du Père, il est toujours son fils. C'est lui qui... Pour lui, son père n'est plus toujours son père, parce que voilà, il s'est coupé. Mais dans le cœur du père, le fils est toujours le fils. Mais dans le cœur du fils, il dit, bah, t'es plus mon père, d'ailleurs, donne-moi les parts d'héritage, t'es mort pour moi. Voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas Dieu qui se lasse de nous pardonner, c'est nous qui nous lassons de lui demander pardon, dit le pape François. Donc, ce mystère de joie, il traverse... reprenez le livre d'Isaïe, relisez ce que saint Jérôme appelait le proto-évangile dans le livre d'Isaïe, hein, dans le Saint-Testament, ce grand prophète. En vrai, il y en a trois prophètes. Il y a celui qui écrit avant l'exil à Babylone, le petit roi d'Israël va partir, voilà. Et puis après, il y a le prophète qui va écrire dans l'exil, voilà, pour consoler Israël dans l'épreuve. Et puis après, il y a le retour à Jérusalem. Et de fait, il n'y a pas un prophète Isaïe, il y en a trois, voilà. Alors, ils ont tous le même nom parce que les deux suivants sont mis dans les lignes du premier. Et vous avez des chants de joie extraordinaires, d'exultation, même avant l'exil. Il y aura l'épreuve, mais on sait que le Seigneur va nous délivrer. Puis dans l'exil aussi, et après l'exil, le chant d'exultation. Voilà. La joie du salut. Avançons, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Voilà. Avançons. Et alors si... Quelle est la première parole que l'ange adresse à la Vierge Marie ? Non. Réjouis-toi. Eh oui. La paix vient après, vous avez raison, mais réjouis-toi, Kairé. La première parole qui nous annonce la venue du Sauveur, toute proche, c'est une parole de joie. Réjouis-toi, Kairé. Et après, effectivement, viennent des paroles de paix. Il y a quelqu'un qui a compté le nombre de fois dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le nombre de fois où Dieu dit à ses témoins, à son peuple, « Réjouissez-vous, n'ayez pas peur, soyez sans crainte, la paix soit avec vous. » Allez, combien de fois, vous savez ? 365 fois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque jour, Dieu nous dit « Réjouissez-vous. » N'ayez pas peur, soyez sans crainte. Alors, on continue, hein, on avance. À l'Annonciation, c'est une bonne nouvelle, la nouvelle, que eh bien, Dieu nous donne son Fils. Car on ne sauve pas quelqu'un de loin. Oh, vous me direz, quelquefois, Jésus a guéri des malades sans aller chez eux. Il y a deux ou trois guérisons dans l'Évangile, effectivement, mais ce n'est pas comme cela que Jésus aime à le faire. Il le fait pour manifester sa toute-puissance. Mais la plupart du temps, il sauve toujours en touchant les gens, près d'eux, en les rencontrant. Voilà. On ne sauve pas quelqu'un de loin. Le sauveteur en haute montagne n'a pas fait un coup comme ça, non, il va descendre au fond de la crevasse. Puis il y a cette proximité, il y a cette attention. Voilà. Et donc, la bonne nouvelle, voilà, du salut, du sauveur qui est là, qui est tout proche. Dieu qui n'est pas seulement avec son peuple, tu seras mon peuple et moi je serai ton Dieu, mais Dieu qui se fait l'un de nous. Et nous allons le voir, Dieu l'un de nous est Dieu le plus petit parmi nous. Il se fait le dernier, la voiture balai de l'humanité. Enfin, il va chercher la brebis perdue. Voilà. Il ne veut pas qu'un seul se perde. C'est un grand souci du pape François. Vous savez. Et l'un de nos frères disait que nos trois papes, là, ils ont chacun leur grâce. Jean-Paul II, c'était le fonceur. Il était devant, là, il entraînait tout le monde. Là. C'était voilà, un géant. Voilà. Pape Benoît XVI, il était, voilà, était au milieu du peuple, là, il accompagnait au milieu du troupeau, comme les bergers, ça, il y en a qui sont devant, à un moment, et bien, il y en a qui sont au milieu. Puis pape François, c'est plutôt celui qui est derrière. Là. Et le berger, des fois, il est derrière, et puis il veille qu'aucune brebis se perde. Voilà. C'est très beau. Voilà. Eh bien, Dieu se fait l'un de nous, et il se fait même le dernier. Voilà. Notre sauveur, il est là. Je suis au fond de la crevasse de notre péché, et le sauveur arrive. J'entends l'hélicoptère, j'entends l'échelle qui descend. Ah, il y a de la joie. Enfin, j'ai mal, hein, j'ai mal encore. Hein, ouf. Mais la joie, je vais être sauvé. Vous savez, dans les tremblements de terre, quand on voit ces scènes terribles des sauveteurs qui font tout là pour. Voilà, et puis, comme ils arrivent à creuser, je ne sais pas quoi, puis on entend une voix, puis. Donc la personne est dans les gravats, mais elle entend les sauveteurs, elle dit voilà, on est là, on va creuser. Aïe, 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 la paix, je vais te sauver. Voilà. La joie du salut. Ah, c'est pas un truc. La joie du salut, ce n'est pas une petite cerise sur un gâteau. Hein. C'est le cœur de notre vie. Hein. Voilà. Le cœur de notre vie baptisée. Et derrière, c'est tellement une bonne nouvelle. C'est tellement une bonne nouvelle que Marie ne peut pas le garder pour elle. Parce que si c'est vraiment une bonne nouvelle d'être sauvée, une vraie bonne nouvelle ne peut pas la garder pour soi. Comme je vous disais tout à l'heure, le monde n'est pas si mal fait, on reproche tellement de choses à Dieu. Une joie partagée, qu'est-ce qu'elle fait? Une vraie joie, je ne parle pas des bêtises. Hein. Une vraie joie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente. Et une souffrance partagée, c'est la compassion, c'est la sympathie. Sympaton en grec, souffrir avec, compassion en latin. Souffrir avec. Vous savez, quand un malade est entouré, oh, il a mal, il va mourir aussi. Les gens qui sont là ne vont pas l'empêcher de mourir. Marie au pied de la croix, ben, je vais Jésus de mourir. Mais sa présence, sa communion, la souffrance diminue. Voilà. Tiens la main. Voilà. Une souffrance partagée, elle diminue. Une joie partagée, elle augmente. Pourquoi s'en priver? Pourquoi en priver mes frères de la joie, de la bonne nouvelle? Et c'est ce que fait Marie. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va visiter sa cousine Élisabeth. Elle va porter la bonne nouvelle. Voilà. Elle va la servir. Elle, la mère du Sauveur, va servir la mère du précurseur. Il y a le lavement des pieds en germe, là, en germination, en conception. Voilà. Et d'ailleurs, la joie, c'est une maladie, si j'ose dire, c'est une maladie contagieuse. Hein. La joie, elle est contagieuse. Hein. Parce que Jean-Baptiste tressaille dans le sein d'Élisabeth. Voilà. Bienheureuse est celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites. Voilà. La joie de Marie, elle est communicative. La joie de la bonne nouvelle, voilà, pas la peine de faire grand-chose. Il y a des gens qui rayonnent de cette joie, de cette sainteté. Je pense à des amis paysans, là. Ils n'ont jamais quitté leur village en Charente, en Charente-Maritime, là, des paysans. Voilà. Ils sont morts maintenant. À la sépulture, il y avait 600, 700, 800 personnes dans l'église. 200 dehors, dedans, 400, 600 dehors. Parce qu'ils avaient un rayonnement. Les gens, ils trahissaient les vaches pendant 40 ans. Mais il y a une manière d'être, cette sainteté, la commune classe de sainteté. Les gens ils venaient prendre le lait à la ferme parce qu'ils étaient tellement heureux de les voir qu'il y avait le lait, mais il y avait un autre lait, celui de la bonhomie, de la gentillesse, de la bonté, de la joie de Dieu qui rayonnait. Voilà. Donc la Marie, c'est ça, Marie, elle va porter la bonne. Elle ne peut pas garder pour elle, c'est pas possible. Et à travers Élisabeth, dès le premier jour, c'est à toute l'humanité qu'elle porte la bonne nouvelle du salut. Voilà. À toute l'humanité dans l'espérance du salut. Parce que le sauveur, ce n'est pas le sauveur d'une personne, ou de deux ou trois, d'un petit groupe, d'une petite secte. C'est le sauveur de tous les hommes. Il a donné sa vie pour nous sur la croix, lui innocent, pour nous pauvres pécheurs. Bon, allez, je prends les images un peu fortes, hein, mais pour comprendre l'amour de Dieu, enfin, il nous dépasse infiniment, mais de quel amour nous sommes aimés? La vie de chacun vaut la vie de Dieu, du Fils unique de Dieu, dans le cœur du Père. Imaginez que vous êtes à la Bayonne, il y a un tram, ou pas, non, ben, enfin, mettons, il y a un bus, voilà. Il y a un bus, à Bordeaux, il y a un tram, je rentre sur le tram, enfin, voilà. Donc il y a un bus. Et bon, je ne sais pas quoi, vous êtes avec le casque sur la tête, et puis vous ne faites pas gaffe, vous traversez, hop, le bus va vous renverser. Et il y a un petit gamin de 5-6 ans, 7 ans qui est là, qui vous prend la main, qui vous tire, voilà, pour vous empêcher d'être heurté et peut-être d'être voilà, renversé par le bus et peut-être mourir. Et puis le gamin, en faisant ça, il tombe, et puis c'est lui qui est, voilà, qui a donné sa vie pour vous. Vous seriez bouleversé. Voilà. Qu'un enfant, qu'un innocent donne sa vie pour vous. Et bien sûr, la croix, Jésus est plus innocent que n'importe quel innocent. Un enfant est innocent, mais Jésus est encore plus innocent. C'est l'innocent, celui qui est sans péché. Il a beau avoir 33 ans. Voilà. Mais voilà de quel amour nous sommes aimés. Voilà de quel amour nous sommes aimés. Alors cette bonne nouvelle, on ne va pas la garder pour nous. Voilà. Et les équipes du rosaire, bien, c'est cela, avec la Vierge Marie, qui est la première témoin de la bonne nouvelle, de la joie de la bonne nouvelle, dès le premier jour. Et la Vierge Marie va chanter le Magnificat, ce chant d'exultation, ce chant d'action de grâce, de joie. Alors, on va le voir, c'est une joie immense, on va voir pourquoi. Parce que pourquoi la joie de Marie, on dit qu'elle se réjouit, mais elle fait plus qu'exulter. Enfin, le pape, dans son exhortation, dit, reprend les paroles, réjouissez-vous et exultez. On se réjouit, mais on jubile, on exulte. C'est-à-dire que c'est une joie qui est multipliée. Pourquoi ? Parce que Marie, elle relie la vie de sa vie et puis celle du peuple d'Israël, de son peuple, et elle voit toutes les merveilles que Dieu a fait pour nous. Et alors la joie de Marie, elle est multipliée, vous savez pourquoi ? Parce que Marie, elle sait que Dieu est fidèle, qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Alors ce qu'il a fait hier, eh bien il va le faire demain. Alors, il le fera d'une autre manière, dans la géniosité de sa charité. Mais il le fera demain. Donc sa joie, elle est multipliée parce que Seigneur, ce que tu as fait hier, tu vas le faire demain. Et... Donc c'est pas une petite joie. Qu'est-ce que les anges, l'ange va dire au berger ? Je vous annonce une bonne nouvelle. Un sauveur vous est né. Le sauveur est là. Il est au fond de la crevasse pour vous sauver. Aïe, on est sauvé. Enfin, on est sauvé. Il faut accepter d'être sauvé parce qu'il y en a qui ne veulent pas. Vous savez, on raconte l'histoire d'un... Non, je n'en connais pas tout le temps. Et donc, c'est pas une petite joie. C'est pas une petite joie. Enfin si, ouais, je vous la raconte, oui. C'est l'histoire de quelqu'un qui est dans les sables mouvants, puis qui a dû... Enfin, je ris parce que je pense à l'histoire après. Et qui s'enfonce, quoi. Alors, il y a les pompiers qui passent, vraiment, et ils tendent la main et disent, allez, donnez-nous la main, on va vous sauver de là. Non, non, je vais me débrouiller tout seul, je suis assez grand, je sais pas quoi. Et puis d'ailleurs, Dieu va manifester sa gloire, s'il est un peu croyant, d'ailleurs. Bon, voilà. Non, non, j'ai pas besoin de vous m'aider, je sais pas quoi, non, non. Bon, les pompiers disent très bien, puis une demi-heure après, il passe, il y en a jusqu'ici, la moitié, là. Il dit, allez, donnez-nous la main, là, on va vous sauver, vous voyez bien, vous avez besoin de nous. Non, 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 je vais me débrouiller, puis Dieu, d'ailleurs, il va. Voilà, moi je suis croyant, il va se débrouiller, il va se faire. Bon, puis les pompiers passent une demi-heure après, il a du sable jusqu'ici. Et il dit, non, non, je vais me débrouiller tout seul, non, 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 non. Puis Dieu va manifester sa gloire, d'ailleurs, enfin, moi je suis croyant, Dieu va faire quelque chose pour moi, d'ailleurs, s'il est Dieu, il va faire quelque chose, et puis il s'enfonce, il meurt, là. Puis il arrive au ciel, puis il dit à Dieu, ben, voilà, je t'ai fait confiance, tu n'as rien fait pour moi, et Dieu lui dit, mais t'es un vrai crétin, enfin, je vais être poli, hein. Je t'ai envoyé 3 fois les pompiers. Alors les pompiers, c'est les sacrements de l'Église, c'est l'Évangile, c'est les prêtres, c'est les évêques, c'est les diacres, c'est les uns et les autres, les uns avec les autres, c'est les équipes du rosaire, c'est... Voilà. Alors la joie du salut, il faut la saisir, vous comprenez, voilà, l'accueillir. Parce qu'on peut toujours dire non à la joie du salut. Au salut, on peut toujours dire non, je ne veux pas. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, je vais me débrouiller tout seul. Puis je vais très bien, je ne suis pas malade. Alors si nous rentrons dans la joie du salut, nous comprenons, hein, un petit peu, je pense, ensemble, on a toujours besoin de comprendre, hein, moi-même. Hein. Un frère disait qu'on prêche toujours bien que pour soi-même. Et donc, ben, ce n'est pas une petite joie. Vous savez, quand les rois mages, moi je prends l'évangile, hein, je lis, hein, les rois mages, vous savez, ils sont passés par Jérusalem, ça a été un peu compliqué, là, ils ont failli ne pas arriver, puis après ils repartent, même Hérode essaye de les manipuler d'ailleurs, et puis, ils voient l'étoile qui les a attendus. L'étoile, c'est le signe de l'Église qui marche, qui accompagne les hommes sur le chemin du salut, qui les accompagne, voilà, au nom du Christ, dans l'Esprit Saint. Alors, quand ils ont vu l'étoile, ah, l'étoile est là qui me guide, voilà, il me dit qu'ils se réjouirent d'une très grande joie. Alors, il y a une répétition, bon, parce que le grec de l'évangile est marqué par l'héritage de l'hébreu et de l'araméen, et on aime bien répéter, donc, voilà, pour dire quelque chose, pour insister, on répète, voilà. Ils se réjouirent d'une très grande joie. Allez dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, verset, je ne sais plus combien, 10 ou 11, là. Voilà, vous verrez, ils se réjouirent d'une très grande joie. Donc, ce n'est pas une petite joie, hein. D'abord, c'est une répétition. Et en grec, c'est mégas. Méga. Vous savez, les jeunes, c'est méga. Oui, c'est pas une petite joie, c'est méga. Voilà, voilà. Donc, ce n'est pas une petite joie que Dieu veut pour nous. Nous continuons. Tout ce mystère de joie, eh bien, va habiter. Eh bien, la prédication de Jésus. Au premier jour de l'Annonciation, la vie de Jésus, premier jour de la prédication de Jésus, les béatitudes. Quelles sont les premières paroles que Dieu nous adresse par Jésus, son Fils? Les béatitudes. Première, vous savez, dans l'évangile de Matthieu, au début, il y a l'évangile de l'enfance, puis il y a le récit la passion, la mort et la résurrection, et au milieu, il y a cinq grandes sections. C'est une cathédrale, une grande leçon rabbinique, l'évangile de Matthieu, et vous avez la première grande prédication, il y a cinq prédications de Jésus, il y a récits de ce que fait Jésus pour nous, puis après, à chaque fois, il y a une prédication. Jésus, il fait, puis il parle. Nous, on parle beaucoup, puis on ne fait pas grand-chose. Il fait d'abord, puis après, il parle. Et donc, et la première prédication, c'est le serment sur la montagne, il nous explique la loi nouvelle. Et au début, il y a les béatitudes, la charte de la sainteté. Alors, ce n'est pas une joie facile, hein. Ce n'est pas la joie des publicités, hein. Ce n'est pas tout de suite. Mais c'est une joie profonde, une joie que nul ne pourra nous ravir. C'est-à-dire qu'au premier jour, Dieu nous montre vers où nous allons, vers cette joie éternelle. C'est comme le second dimanche du carême. Vous savez, on va toujours sur le Tabor, en second dimanche du carême. On marche, là, on monte vers Jérusalem, le chemin est difficile, puis à un moment, Jésus nous emmène en haut pour être transfiguré. On voit le mystère de gloire vers où nous allons. Puis après, on va redescendre la passion, mais on voit de loin. Vous savez, c'est comme si on était ici, là, puis on va monter sur une colline, puis on va voir les Pyrénées, là. Puis on va redescendre après, hein, on ne les verra plus d'ailleurs. Mais on sait où on va vers la chaîne de montagne, vers la gloire. Voilà. Eh bien, pour les béatitudes, c'est pareil. On est sur la montagne, Jésus est le nouveau Moïse, d'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, il proclame la loi nouvelle, il est sur la montagne, et il nous dit vers où nous allons, cette joie éternelle. Et ce n'est pas une petite joie, hein. La joie du salut, la joie pour toujours. Et tout au long de l'évangile, il y a des béatitudes que Jésus va proclamer. Jusqu'au dernier jour, d'ailleurs, au matin de la résurrection, il est le même hier, aujourd'hui, à jamais, donc c'est les mêmes paroles, il va dire « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Ce qu'a dit Élisabeth à Marie au premier jour. L'impression que Jésus l'a entendu dès le sein maternel, là, mystérieusement, et il redit « Bienheureux celle qui a cru en l'accomplissement des merveilles qui lui furent dites. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et donc, ces béatitudes vont scander, vous voyez, comme un pizzicato, si je veux dire, dans les orchestres, vous voyez, va scander un peu toute... la prédication de Jésus. À un moment, il y a dans l'évangile, il y a ta famille qui te cherche, il y a ta maman, il y a ta famille qui te cherche. Qui est ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. On a l'impression que Jésus rabroue Marie. Mais non, il l'exalte, parce que qui plus que Marie a écouté la parole de Dieu et l'a mis en pratique. Le Verbe s'est fait chair en elle. Et alors, ces paroles de béatitude, de joie, eh bien, ce mystère de joie, ce dessein de joie éternelle, de salut, il est à travers tout l'Évangile, jusqu'au dernier soir. Au dernier soir, qu'est-ce qui se passe? Jésus va instituer l'Eucharistie, et au moment où les apôtres, c'est dans l'Évangile de Luc, vous irez au chapitre 22, c'est important, le chapitre 22, enfin, tous les chapitres des Évangiles, bien sûr. Hein, tout, voilà. Mais Jésus institue l'Eucharistie, et après, là, c'est quand même, le drame de la Passion se déploie. Et les apôtres discutent encore de savoir qui est le plus grand, juste après. Ils discutaient pour savoir qui était le plus grand. Ils sont un peu bourrins, les apôtres. Hein. Mais ça nous console, parce que nous aussi, on est un peu bourrins. On a un peu du mal à croire, à espérer, à aimer. Voilà. Voilà. Ils nous apprennent à faire confiance, à nous laisser façonner par l'amour de Dieu. Alors, ils discutent de qui est le plus grand. Et Jésus dit, mais celui qui est le plus grand, c'est celui qui sert. Et je suis parmi vous comme celui qui sert. C'est ce moment où Jésus s'est levé tard pour laver les pieds de ses disciples. On avait un frère, le frère Timothy Ratcliffe, vous l'avez connu, notre ancien maître général, c'est anglais, qui a un jour été invité par, par Bernard Pivot à l'émission Bouillon de culture. Vous vous souvenez, il y avait apostrophe, avec Bouillon de culture, une bonne émission. Et le vendredi saint, il invitait toujours en général les chrétiens, et il leur posait vous mourrez, vous rencontrez Dieu, qu'est-ce que vous aimeriez que Dieu vous dise ? Il y avait Robert Hossein, je ne sais plus ce qu'il a dit. Et Timothy Ratcliffe, qui est en habit dominicain, qui a mis un climat sympathique sur le plateau, répond « Je voudrais que Dieu me dise le secret de sa joie. » Le secret de sa joie. Alors je crois qu'au dernier soir, vous savez, les dernières paroles de quelqu'un, les derniers gestes de quelqu'un, souvent nous récapitulent tout ce que cette personne a voulu nous dire, comme un testament, si je puis dire. Quelquefois des simples paroles, des simples gestes, voilà, providentiels, et qui sont un peu le cœur de la vie de cette personne, qui rejoint le royaume de Dieu. Et Jésus, le dernier soir, il lave les pieds de ses disciples. Voilà. Finalement, il nous dit une dernière béatitude, sachant cela, heureux serez-vous si vous le faites. Au dernier soir, Jésus laisse un commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Premier jour, il y a trois chapitres dans l'évangile de Matthieu, il explique la nouvelle. Et au dernier soir, il y a un commandement, il n'y a pas huit béatitudes le dernier soir, il n'y en a qu'une seule. Sachant cela, heureux serez-vous si vous le faites. Et puis après, Jésus va prier. C'est saint Jean qui nous relate cela dans le chapitre 17, la grande prière d'intercession de Jésus. Et au cœur de cette prière, au dernier soir, avant de mourir pour nous, de vivre sa passion, il prie pour nous et il dit « Qu'ils aient en eux-mêmes ma joie en sa plénitude. » Voilà. Ce dessein de joie éternelle, la joie du salut. Alors la joie, eh bien, elle est le fruit de l'Esprit Saint, des dons de l'Esprit Saint, avec la paix, la joie. Voilà. La joie, c'est celle de la communion. Finalement, nous sommes créés pour aimer et être aimés, la plupart du temps dans le mariage, mais sinon dans d'autres vocations aussi, voilà, en union, en communion avec Dieu. Et nous sommes des êtres de communion. Et la joie, elle est dans cette communion vraie avec Dieu, avec nos frères, dans la fraternité, dans la tendresse, dans le mariage. Voilà. Nous sommes des êtres... Et qu'est-ce qui nous peine ? C'est quand cette communion, elle est brisée. C'est le diable. Il a horreur de la communion. Il a dit non en face de Dieu. Le diable, vous savez, il y a des mots... Le diable, c'est celui qui divise, en grec, diabolein. Symbole, c'est celui qui rassemble, sum bolein. Voilà. Et donc, la joie, c'est celle de la communion. Voilà. De la communion retrouvée. Voilà. Ce que nous avons entendu, nous dit Jean, ce que nous avons vu du Verbe de Dieu, ce que nous avons contemplé du Verbe de Dieu, ce que nous avons touché, nous dit-il, c'est au début de sa première épître, nous vous l'annonçons. Mais pourquoi nous vous l'annonçons ? Pour que votre joie soit complète. Pour que votre joie soit en plénitude. La joie du salut, la joie d'être sauvé. Donc ce n'est pas une petite joie, c'est une très grande joie. Et nous ne pouvons pas la garder pour nous. Et je crois que c'est l'un des traits du pontificat du pape François. Il insiste beaucoup sur cela. Il nous encourage à travers... en particulier, eh bien, deux textes, Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, et puis cette dernière exhortation, Gaudete et exultate. Réjouissez-vous, mais pas seulement réjouissez-vous, exultez de joie. Exultez de joie. Alors, je voudrais peut-être prendre quelques traits, quelques miettes. Pour terminer, dans combien de temps ? Encore 10 minutes ? Un quart d'heure ?
Oui, un petit quart.
Quelques traits de cette joie. Cette joie, nous ne pouvons pas la garder pour nous. Vous avez compris ? Si vraiment Jésus est ressuscité, que nous sommes appelés à la résurrection, que nous le sommes déjà dans la grâce de notre baptême, que nous vivons déjà de ce mystère pour la vie éternelle, cette grâce ne dispense pas de l'épreuve de la mort, comme Jésus sur la croix, mais il nous tient la main. Eh bien, cette joie, nous ne pouvons pas la garder pour nous. Alors, c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Si nous sommes là ce matin à la récollection, ce n'est pas les équipes du Rosaire qui ont inventé ça. Hein. C'est Jésus dans l'Évangile. C'est lui qui a l'initiative en toute chose. Il dit à ses apôtres, venez un peu à l'écart, vous reposez. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, Marc, chapitre 6, verset 30-31. Voilà, donc nous sommes venus nous reposer un peu auprès de Jésus ce matin ensemble, comme les apôtres. Et après, nous allons repartir, porter la bonne nouvelle du salut, avec peut-être toujours plus dans notre cœur. Et moi aussi, je vais repartir, parce qu'en vous la partageant, ça s'ancre encore plus dans mon cœur, le fait de la partager, vous voyez. Et de le partager dans vos équipes. Comment on partage la joie du salut? Bon, par notre charité, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre paroisse, enfin partout, dans nos lieux de travail, si nous sommes encore au travail, voilà, partout. Parce que cette joie, alors on va le partager comment? En parole? Oui, en parole, il faut savoir parler, voilà, avec tout notre être, donc avec la parole, mais aussi par notre geste, par notre manière d'être, par un sourire, par le temps que je vais prendre avec quelqu'un. Quand j'aime quelqu'un, je vais prendre du temps. Une histoire, tiens. L'hôpital ou en prison, c'est pareil, d'ailleurs. Dans l'épreuve. Les aumôniers, quand ils visitent des gens malades ou prisonniers, on a beaucoup un travail d'écoute. Alors, quelquefois, on rentre dans une chambre, je prends l'hôpital, par exemple, et puis la personne a besoin de parler. C'est une personne très seule, qui souffre beaucoup. Elle se met à parler, elle a besoin de parler, de partager sa souffrance. Voilà. Et puis elle parle. Et puis au bout de... d'une heure, il y a l'infirmière qui arrive, ou c'est l'heure du repas, et bon, il faut partir. Et la personne vous dit, mais ça arrive plusieurs fois, puis il y a pas mal d'aumôniers, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez dit, ça m'a beaucoup éclairé. Vous n'avez pas placé une, hein. Vous avez écouté. Voilà. Au sens, écouter quelqu'un, où il n'y a pas de parole, au sens, c'est déjà, tiens, quelqu'un, ce que tu vis, ça a du prix, je suis là au nom du Christ. Voilà. Après, il y a des paroles, bien sûr, il faut savoir. Pas rester muet, bien sûr, hein. Mais vous comprenez, voilà, c'est un peu une petite histoire, une petite Fioretti. Voilà. Eh bien, comment j'ai porté la bonne nouvelle, voilà, hein, par cette charité, voilà, en parole, en acte, par toute ma vie. Et je vais porter cette bonne nouvelle. Je ne peux pas la porter, la bonne nouvelle, si je ne la reçois pas. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. D'accord? Ouais. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Avec le Christ, c'est comme ça. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, où est-ce que je vais recevoir cette bonne nouvelle? Eh bien, dans les sacrements de l'Église et dans la prière. Bien sûr, dans la charité fraternelle, partagée avec quelqu'un d'autre qui va me témoigner cette bonne nouvelle. Ce que vous faites au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous le faites, donc il y a cet échange, la charité. Mais dans ce lieu source, qui est la prière, et qui trouve sa source et son accomplissement elle-même dans l'Eucharistie, prière de toutes les prières. Et les équipes du Rosaire sont bien dans cette lumière. Nous allons accueillir la bonne nouvelle du salut, accompagnée par celle qui, plus que quiconque, a accueilli la bonne nouvelle, c'est la Vierge Marie, parce que cette bonne nouvelle s'est fait chair. Cette bonne nouvelle, c'est quelqu'un. C'est pas un topo, la bonne nouvelle. Alors, bien sûr, il faut parler, je vous parle maintenant. Mais la bonne nouvelle, c'est quelqu'un, c'est Jésus, c'est un visage, c'est des mains, c'est un cœur qui nous aime infiniment, c'est le Fils de Dieu. Et où est-ce que... Voilà. Et bien, avec la Vierge Marie, nous allons apprendre à accueillir cette bonne nouvelle. Parce que qui plus que la Vierge Marie a accueilli la bonne nouvelle? Qui? Dites-moi. Appelez-moi au téléphone hein, si vous trouvez quelqu'un qui... Voilà. Qui est-ce qui nous a le plus aimé au monde que la Vierge Marie? Au fin fond des cellules de prison, on a arrêté de parler avec beaucoup de musulmans, on a globalement un grand respect pour les aumôniers. Et on parlait assez vite du Christ. Alors, je dis Bouddha, c'est bien, enfin bien, je ne sais pas. Mahomet... Je dis rien. Mais est-ce que, finalement, on disait, mais finalement, notre vocation humaine, à travers toute l'humanité, c'est d'aimer et d'être aimé, et de suivre la personne qui nous a le plus aimé au monde. Alors, c'est souvent dans le mariage, voilà. Mais c'est ça notre vocation, de suivre la personne qui nous a le plus aimé au monde. Qu'est-ce que Bouddha a fait pour toi? Qu'est-ce que Mahomet a fait pour toi? Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Il a donné sa vie pour moi sur la croix. Si vous me trouvez quelqu'un qui nous a plus aimé que Jésus, appelez-moi au téléphone, même à 3h du matin. Il a donné sa vie pour moi, l'innocent. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour moi. Et cette bonne nouvelle, je ne vais pas la garder pour moi. Et donc les équipes du Rosaire, c'est méditer sur la vie, les événements, les mystères, les lieux de grâce, de toute grâce, de toute sa vie, du Christ, de certains événements qu'on a gardés plus particulièrement, mais toute la vie de Jésus nous sauve. Avec la Vierge Marie qui gardait toutes ces choses en son cœur. Les équipes du Rosaire, c'est là où nous allons accueillir cette bonne nouvelle et pour la porter, mais la porter au sein même des équipes, la chaise vide. C'est autour de nous faire signe à une voisine, à une dame, et lui dire, ou à monsieur, bien sûr, dire, venez prier avec nous. Voilà. Cette bonne nouvelle, on ne peut pas la garder pour nous. Et la chaise vide, c'est aussi ça, transmettre la bonne nouvelle au sein même de l'endroit où nous allons accueillir la bonne nouvelle avec la Vierge Marie. Le salut en Christ, à notre trait, la joie du salut, ce n'est pas une joie sécurisée. Il n'y a pas des assurances. Vous savez, il y a des assurances vie aujourd'hui. Bon. Notre assurance vie, c'est la rédemption. Voilà. Notre assurance vie, c'est, elle n'est pas sécurisée, elle est certaine, ce qui est différent. C'est-à-dire que ce n'est pas sans risque, on comprend bien. L'histoire du salut, ce n'est pas sans risque. Il y en a un qui est mort pour nous sur la croix, et si on veut être avec Jésus, ben, dans la gloire, il faut être avec lui. Parce qu'on peut dire, ah ben, Jésus, je vais être avec toi dans la gloire, mais alors, quand c'est difficile, ben, on se dira après. Quoi, hein. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Parce que le chemin de la gloire, c'est le chemin de celui qui est le chemin de Jésus. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'autre chemin. Et donc, ce chemin de la gloire, de la joie éternelle, il passe par la croix, par l'épreuve. Et donc, je ne peux pas suivre Jésus, voilà, sans prendre ce chemin avec lui. Voilà. Et donc ce chemin, il est risqué, il est difficile, il n'est pas sécurisé au sens, il y a des risques, on prend des nions hein, avec Jésus, voilà. Les apôtres, les saints, il y a des martyrs, voilà. Mais c'est le chemin de la joie éternelle. Alors ce chemin, eh bien, on l'a évoqué, je terminerai par là. La joie du salut, je disais que c'est la joie du pardon. Alors on pourrait reprendre 3-4 jours, même plus, sur la joie du pardon. La joie de pardonner et d'être pardonné. Chapitre 15 de l'évangile de Luc, Jésus parle de l'histoire de la brebis perdue et il nous dit « Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pardon. » C'est-à-dire que chacun est unique. Dimanche dernier, Jésus nous disait « Je suis le bon pasteur ». Le bon pasteur, vous savez, pour compter ses brebis, il ne compte pas les têtes, c'est difficile. Les pattes sont encore plus difficiles, il faut diviser par quatre. Donc, mais il connaît chacune par son nom. Voilà. Il sait quand il en manque une. Voilà. Et dans le cœur de Dieu, eh bien, et dans le cœur de tous ceux qui nous entourent, entourés de sommes de nuées de témoins, on a bien vu tous les saints, et puis tous les saints qui sont autour de nous, eh bien, il n'y a plus de joie pour eux, pour un pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pardon. La joie du Père qui accueille son Fils prodigue. La joie du Fils qui revient, vous savez, elle est dans le cœur du Père, relisez la parabole après, elle est déjà dans le cœur du Père dès qu'il voit son Fils qui revient. Imaginez cette... Alors, il y a quelqu'un qui s'est séparé de la famille, et puis on sait que la personne revient. Alors ça va être peut-être un peu compliqué, ça va être un peu difficile, mais il va être là, il revient. Et la joie, elle est déjà là avant même que la personne arrive. Avant même que le pardon soit donné. D'ailleurs, vous remarquerez dans la parabole, le père commence par embrasser le fils avant qu'il puisse faire son aveu. Il lui dit « Tu es toujours mon fils ». Le pardon, il se vit dans la charité première et dernière, qui est la source du pardon. Ce don par-delà tout don. Cet amour plus grand que l'amour. Et ce n'est qu'après que le Fils, que le Père ait embrassé le Fils, que le Fils fait son aveu de vérité. Parce que le pardon, c'est pas... Il faut la vérité. Qui fait la vérité vient à la lumière, dit Jésus. C'est ça, hein, dit Jésus. Parce que quand on n'est pas dans la vérité, on est dans le péché, dans les ténèbres, et on se casse la gueule, et on va marcher dans la nuit, hein, on se casse la figure, hein, on se fait mal. Hein. Voilà. Quand on vient, quand on fait la vérité, on vient à la lumière, et là, retrouve la liberté, qui fait la vérité, la liberté vous rendra libre. Et on retrouve la joie, la liberté des enfants de Dieu. On peut marcher dans un jardin la nuit, on a... C'est casse-gueule. Marcher dans un beau jardin, même un beau jardin la nuit, on se casse la figure. Marcher dans un beau jardin, dans la lumière de la vérité, voilà, ben on est heureux, mais on a toute la liberté qu'on veut. La joie du salut, la joie de la bonne nouvelle. Alors quelquefois, on a du mal à rentrer dans cette joie. parce qu'on est des pécheurs aigris, on est dans nos... Voilà, on est loin de Dieu, on est orgueilleux, on a du mal à faire la démarche. Voilà. Ou peut-être qu'on est aussi, oui, orgueilleux, un peu comme l'enfant, le fils aîné, vous savez, qui a du mal à comprendre la miséricorde de son père. C'est vrai que le fils, il se dit, papa, il a déjà partagé l'héritage en deux, maintenant, s'il accueille le fils, qu'on va le repartager, il n'y aura plus qu'un cas. On peut comprendre. Hein. Mais l'héritage, notre héritage, bon, c'est certes des biens matériels, c'est important dans notre vie, mais l'héritage le plus important d'un enfant, c'est quoi? C'est l'amour d'un papa et d'une maman, d'un père et d'une mère. C'est ça l'héritage le plus important. Et quand cet héritage n'est pas là, ô combien notre vie est blessée. Et cet héritage, il ne se partage pas comme un cake. Qu'on ait 2 ou 10 enfants, c'est le même amour, plénier, alors peut-être un peu moins de temps, mais c'est le même amour. Voilà. Voilà. La joie de la bonne nouvelle, c'est d'être aimé d'un tel amour, d'un amour si grand. C'est la joie de la Vierge Marie, la Visitation. C'est la joie de la résurrection. Voilà. Bénissons le Seigneur. Et puis je propose de nous tourner vers la Vierge Marie. Non, non. Et puis de peut-être, maintenant, avec dans notre cœur, le mystère de la Visitation.
Hein. Oui, c'est le mystère des équipes du Rosaire, la Visitation.
Voilà. Et de porter la bonne nouvelle. Voilà. Dans notre prière, dans la communion des saints, et puis dans notre témoignage. Voilà. On peut reprendre tout simplement. Hein. Je vous salue, Marie.
Merci.
Confier nos équipes, tous ceux qui n'ont pas pu venir. Et que le Seigneur nous donne d'entrer toujours plus, et bien dans la joie du salut, de la bonne nouvelle, de la porter à nos frères. Quoi. Parce que fin dominicain, c'est bavard, c'est terrible, il faut que vous m'arrêtiez. Et c'est que, vous savez, la joie de la bonne nouvelle, la joie, si on la garde pour soi, on la perd. Hein. Écoutez bien, la joie de la bonne nouvelle, si on la garde, on la perd. Et pour la garder, il faut la donner. C'est comme la vie.
La joie du salut, vous venez de suivre une intervention du père Nicolas Bernard Virlet, dominicain, aumônier régional des équipes du Rosaire. Intervention enregistrée le 24 avril 2018 à la maison diocésaine de Bayonne lors de la journée diocésaine des équipes du Rosaire.